Science CQFD, Natacha Triou.
Sans lui, une émission comme la nôtre n'existerait sans doute pas. L'astrophysicien et passeur de science Hubert Reeves est mort à l'âge de 91 ans. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Triste 13 octobre 2023, Hubert Reeves n'est pas seulement un éminent spécialiste de la nucléosynthèse stellaire, il est un pionnier incontestable de la transmission scientifique. Entre 1970 et 2020, il a publié une trentaine d'ouvrages de vulgarisation. Pour lui, recherche et partage du savoir sont les faces d'une même pièce. Il avait le don d'associer l'intelligence et l'émotion, science et poésie. Quel héritage laisse celui qui aura marqué des générations de chercheurs et des passionnés de science ? Hubert, sur les Reeves de l'univers. Jean Audouze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien et directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris et du Palais de la Découverte. David Elbaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA et nous serons également rejoints dans quelques instants par Pauline Zarouk, astrophysicienne elle aussi au CEA. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, à toute heure en podcast et vous pouvez également nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil @sciencecqfd. Vous y retrouverez plein de ressources complémentaires. Quelles sont ses contributions scientifiques? Comment Hubert Reeves est passé de la recherche scientifique pure à la transmission plus grand public? Et comment la cause écologique s'est-elle immiscée dans sa réflexion? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec sa voix et on le retrouve sous un ciel nocturne, les yeux tournés vers le cosmos. Nous sommes en 1991.
On a parlé des étoiles et maintenant on va parler des galaxies qui sont des regroupements, de gigantesques regroupements d'étoiles. On va surtout parler de galaxies qui sont un peu spéciales, le domaine des monstres, en particulier des galaxies qui ont des émissions d'énergie fantastiques. Et on va voir d'une part, près de chez nous, nous avons une galaxie monstrueuse qui a probablement un trou noir en son centre. Elle s'appelle 3 Centauri et on va la voir, on va voir plusieurs illustrations de cette galaxie. Vous allez voir qu'il y a une forme assez particulière, qui a des lobes de très grande dimension, qui a lancé des antennes lumineuses à des millions d'années-lumière de distance. Nous la voyons maintenant, nous allons commencer à la voir. Voilà, au centre, vous voyez cette tache blanche, c'est la galaxie, le centre de la galaxie. Une barre noire qui la traverse, c'est une barre de nuages de gaz et de poussière où des étoiles se forment. Et autour, un très grand halo qui contient lui aussi un très grand nombre d'étoiles. Là aussi, plusieurs centaines de milliards d'étoiles, mais ce sont des galaxies très actives, des galaxies. On les retrouve à nouveau, des galaxies qui ont un comportement tout à fait mystérieux, qui sont un des domaines les plus intéressants de l'astrophysique contemporaine. Quelle est la source d'énergie de ces galaxies actives? D'où tire-t-elle cette énorme quantité d'énergie qui équivaut à 1000 fois l'énergie de toute notre galaxie?
Voilà notre archive du jour, tirée de l'émission La nuit des étoiles filantes sur Antenne 2 en 1991. On débute très souvent cette émission avec sa voix et ses extraits sonores. David Elbaz, on peut dire que voilà ce qu'on entendait, la patte de Hubert Reeves, c'est ce don de nous faire croire que c'est simple.
Oui, c'est ça, exactement. Et de nous faire partager le mystère de l'univers, comme si c'était une question qu'on s'était toujours posée, qui nous concernait. Et comme s'il y avait un potentiel. Là, on entend bien dans ce qu'il dit. Et maintenant, on le sait avec le recul, les galaxies dont il parle sont encore un peu mystérieuses pour nous. Et elles font peut-être partie de la plus grande énigme du James Webb qui vient d'être lancé. Donc il avait aussi cette intuition là, qui avait là quelque chose de très fort. C'est le lien entre la lumière et les ténèbres, entre le trou noir et les étoiles, entre la vie et la mort. C'est une galaxie dont il parle, avec un trou noir qui projette des jets, avec des étoiles qui sont en train de naître. Ces questions-là, elles sont là. Et lui, il arrive à prendre un sujet aussi complexe que ça et à le transmettre de façon à ce que ça nous émerveille. Et ça, je trouve qu'il est unique pour ça.
Je redouze une réaction, vous aussi, à l'extrait qu'on vient d'entendre.
Mais moi, je ne suis pas surpris parce que j'ai baigné avec lui, enfin, depuis le tout début de ma carrière, puisqu'il a été mon patron de thèse. Et lorsque vous avez dit qu'on va voir successivement son activité scientifique et son activité de vulgarisateur, en fait, elles étaient très mélangées. Dès le début, moi, à la fois on faisait de la recherche, mais aussi il allait faire une conférence ou il me demandait d'aller en faire une autre. Et je pense, alors il avait vraiment le don. Pour lui, la recherche, c'était pas uniquement pour lui. Il fallait qu'il la partage avec tout le monde. Et d'autre part, qu'il nous enseignait, nous aussi, à la partager avec les autres. Et donc, par exemple, il nous donnait un petit truc. Ce qui est formidable, vous avez remarqué la simplicité de son discours. Et puis, le fait qu'il me disait, par exemple, dans une conférence, on fait passer 1, 2, maximum mes 5. Et on le répète, on lui donne des... Donc il avait vraiment un don absolument, non seulement scientifique, on va peut-être en parler, mais aussi de transmetteur. C'est vraiment, il est unique de ce point de vue-là.
Oui, il considère, je le cite, que la communication du savoir est au moins aussi importante que l'avancement des connaissances. Il est malsain et parfois dangereux de cultiver le secret mandarinal autour de la science.
Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand on pratique ça, moi, je me considère un peu comme un descendant d'Hubert, parce que je pense qu'il a planté une graine, on en parlera peut-être, je peux le dire même tout de suite, en moi, en 1988, et que cette graine a poussé. En 1988, j'étais étudiant en école d'ingénieur, et je vois une foule amassée comme s'il y avait un concert des Rolling Stones. Et je me dis, je ne vais jamais pouvoir réussir à rentrer. Il y avait juste un petit bonhomme, c'était Hubert Reeves. Et je peux vous dire que les figures qu'il montrait à l'écran étaient moches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des simulations qui sont extraordinairement belles, etc. Il n'y avait même pas ça pour les... C'était juste lui. Et là, il nous a parlé de quelque chose. C'était le fait qu'une étoile, c'était un peu comme un être vivant parce que ça maintenait une température constante par une compétition entre les réactions nucléaires dans le centre et puis la gravité qui voulait comprimer. Et quand il nous a expliqué, ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent, parce qu'on a... mais à l'époque, moi, je ne le savais pas du tout, c'est ce qu'on appelle la séquence principale des étoiles. Eh bien, En venant ici, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la découverte qu'on a faite avec notre équipe, c'est exactement l'extension de ce que me racontait Hubert Reeves ce jour-là, mais nous, on l'a appliqué aux galaxies. On a découvert la même loi à l'échelle des galaxies. Et je pense que la graine qu'il a plantée, elle a continué de pousser et qu'on ne se rend pas compte et qu'on est toute une génération comme ça à bénéficier de ça.
Oui, en effet, Pauline Zarouk, vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Il y a de nombreux astrophysiciens et d'astrophysiciennes qui disent que sans lui, ils n'auraient pas fait ce métier.
Oui, tout à fait.
Vous en faites partie. Quel a été, vous, votre premier contact avec Hubert Reeves et qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette rencontre ?
Alors, mon premier contact a été au travers de ses ouvrages lorsque j'étais lycéenne. Le premier livre que j'ai lu de lui était Chronique des atomes et des galaxies, que ma grand-mère m'avait offert. Et en fait, ça a été la première rencontre avec ces domaines de l'astrophysique et de la cosmologie au sens large. Et ce qui m'a beaucoup plu dans la façon dont Hubert appréhendait ces questions-là, c'était l'approche aussi philosophique et poétique qu'il donnait, qui faisait écho à ma sensibilité aussi à l'époque de lycéenne. Et je me suis rendu compte qu'un domaine de la science pouvait également apporter des réponses scientifiques à des questions qui nous dépassent sur l'origine de la vie, la formation et l'évolution de notre univers. Où allons-nous? D'où venons-nous? Et donc voilà, ça a vraiment été cette double rencontre scientifique et philosophique, poétique. Par la suite, je l'ai rencontré lorsque j'étais adolescente pour des dédicaces de livres ou des événements de diffusion grand public, des conférences. Je me souviens qu'en 2009, c'était l'année de l'astronomie, donc il y avait eu des événements à la Cité de l'Espace et de l'Industrie où j'étais en train de préparer mon bac, j'y allais. Et voilà, ça a été cette rencontre-là aussi à travers ces conférences.
Et vous vous souvenez plus précisément de cette rencontre de...
La toute première rencontre, j'étais extrêmement impressionnée. En fait, j'ai très peu discuté jusqu'à ce que moi-même je sois en train de préparer mon doctorat de cosmologie, parce que même si c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé accessible, j'étais assez impressionnée par l'aura qu'il avait et la quantité impressionnante de personnes qu'il arrivait à rassembler. Et en fin de compte, pourquoi moi, j'aurais le privilège de discuter davantage avec lui qu'un autre. Je me positionnais vraiment comme quelqu'un pas du milieu, bien évidemment, jusqu'à ce que je sois moi-même, en fin de compte, en train de préparer mon doctorat. Et là, ça a été une très belle rencontre en 2017 au Festival d'Astronomie de Florence, où on a pu vraiment échanger.
avoir la chance, avoir ce privilège justement de travailler à ses côtés, comme vous dites, Jean Audouze, hein, vous êtes son premier étudiant quand il est arrivé en 1965 à Saint-Clair. Cette chance-là, comment c'était de travailler avec lui, d'être son élève?
Alors d'abord, il faut se rappeler qu'il n'avait pas du tout le même look. Il avait les cheveux courts, il avait la cravate. C'était vraiment quelqu'un de... Alors pourquoi j'ai eu cette chance inouïe? C'est-à-dire que j'avais terminé mon troisième cycle avec le professeur Schatzmann sur un sujet assez analogue à ce qui l'intéressait. Il arrive, parce qu'il est invité par les physiciens d'Orsay et puis plus tard de Saclay. Et je lui demande, je lui dis, j'ai envie de travailler avec vous. Il m'a dit, ben oui, d'accord. Enfin, avec son accent, bien sûr. Alors, comment c'était de travailler avec lui? C'était un vrai bonheur. Honnêtement, parce que il était bienveillant. Enfin, pas seulement bienveillant, mais il savait trouver les mots pour nous encourager. Et puis, oui, moi, je dirais que, curieusement, mais pendant ces 4 ans où j'ai fait cette thèse, puis après les 2 ans où on a fait l'article dont on parlera peut-être un peu plus tard, qui est en fait la pierre angulaire de son œuvre scientifique, eh bien, c'était la fête tous les jours. Il aurait pu très bien me laisser un petit étudiant. Donc j'allais avec lui à Cambridge, je rencontrais tous les grandes vedettes de... Je me suis senti tout de suite assez à l'aise et travailler avec lui. En fait, on travaillait pas, on s'amusait vraiment.
Vous n'avez pas l'impression de travailler.
Oui, non, on travaillait pas.
David Elbaz, on parle souvent de cet enthousiasme de jeune homme, le fait que Hubert Reeves s'est émerveillé des découvertes tous les jours, toute sa vie.
Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens ne le savent peut-être pas, mais Hubert Reeves était vraiment un scientifique, je vais dire pur et dur au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il savait vraiment de quoi il parlait. Ça peut faire illusion le fait qu'il le disait de façon simple et accessible. On pourrait penser que c'était, entre guillemets, un vulgarisateur. Mais comme disait Jean, en fait, non, il était au cœur du métier. Il savait très bien de quoi il parlait. Il a fait lui-même des découvertes qui étaient majeures. Et récemment, il me téléphonait régulièrement sur le portable parce que j'avais écrit un bouquin sur la lumière en racontant l'histoire de l'univers à partir de la lumière. Et ça l'avait beaucoup touché parce que malgré le fait qu'il était fatigué, il disait c'est ça qu'il faut partager. Il faut donner le goût, l'amour, montrer que ça nous porte un peu comme des voiliers qui ont besoin de vent pour être portés. C'est lui qui m'a encore insufflé de la force alors que c'était lui qui était fatigué. C'est ça qui est extraordinaire. Et il voyait précisément, quand on lui disait quelque chose, il m'appelait 3 fois. Pourquoi? Parce que la première fois, il m'a posé des questions. Et après, il m'a rappelé parce qu'il s'est rendu compte que j'étais pas assez précis. J'étais pas assez clair. Et donc, il m'a dit, mais je voudrais quand même savoir un peu plus. Et donc, il allait au bout des choses. Voilà, c'est quelqu'un qui allait vraiment au bout des choses. Je pense que c'est important de le savoir.
Vous pensez que beaucoup de ces idées, si elles étaient relatées par d'autres, auraient eu sans doute moins d'impact et un moins grand succès auprès du large public, par exemple?
J'en suis certain. Vous savez, les gens qui sont communicants, ils ont la règle des 3 V. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est verbal, vocal, visuel. En fait, le verbal, ce que vous dites, ce que vous pensez être le principal, ça correspond à 7% de ce que les gens vont retenir. Après, il y a 38% du vocal et 55% du visuel, c'est-à-dire 93% n'est pas verbal. Hubert Reeves, il savait ça. Donc il savait qu'il n'allait pas pouvoir vous transmettre vocalement. Donc il savait s'allier tous les autres moyens. Et donc si vous donnez à quelqu'un d'autre la mission de transmettre, la preuve, c'est qu'en fait, on n'a pas 18 Hubert Reeves et ce n'est pas Hubert Reeves numéro 1 versus numéro 18. Aux États-Unis, il y a eu Carl Sagan. Pour moi, Carl Sagan, Hubert Reeves, voilà, c'est le niveau, voilà. Et après, il y a d'autres gens qui essayent de faire des choses.
Alors, est-ce que je peux dire quelque chose sur sa façon de faire la science? Parce que je crois que c'est important. Moi, il m'a appris une chose, c'est que quelquefois, faire la science très profondément, c'est pas avoir des idées totalement très difficiles à obtenir, etc. Quelquefois, c'est chercher l'idée simple parmi... Donc, il avait ce talent il était très pragmatique. C'est-à-dire, c'était pas un homme qui voulait en impressionner en écrivant des équations compliquées et tout. Il trouvait, en fait, je vous raconterai tout à l'heure peut-être la façon dont il est arrivé à démontrer que 3 éléments chimiques étaient totalement différents des autres. Mais ça, c'était par des observations à la fois. Et c'était un observateur. Il était simple. Et moi, il m'a appris une chose, c'est qu'effectivement, il faut privilégier le concret, le pragmatique, des grandes... C'était pas, comment dire... Oui, c'était pas... Lorsqu'on faisait de la science, on essayait d'être vraiment au plus près de ce qu'on observe.
Faire la science, selon Hubert Reeves, quelles sont justement ses contributions scientifiques? Comment a-t-il marqué l'histoire des sciences? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, avec Jean Audouze, Pauline Zarouk et David Elbaz, nous rendons hommage à Hubert Reeves, décédé vendredi dernier. Alors Hubert Reeves, nous venons de parler un peu de sa patte. Il est né à Montréal le 13 juillet 1932, il a été ensuite naturalisé français. Mais est-ce que vous savez d'où ça lui vient cette vocation, Jean Audouze?
Oui, ça vient de sa famille de fait. Son père était architecte, je crois qu'il a baigné très vite dans une atmosphère scientifique. Puis, je crois que c'est un observateur. Je crois qu'il était subjugué par la nature. C'est-à-dire, une autre partie de ça, le fait qu'il soit intéressé par l'écologie, c'est pas anodin. C'est vraiment, ça vient aussi de son enfance. Et puis, donc, il fait des études. Et il a la chance aussi. Il a eu beaucoup de chance aussi dans sa vie. Il a su les saisir. Il a eu la chance de faire son travail de thèse avec un grand savant. Il s'appelle Hans Sulpeter, un autre grand savant, Hans Bethe, prix Nobel de physique. Et il a fait sa thèse et reste encore un travail qu'on cite. C'est-à-dire qu'il a déterminé, enfin, il a étudié des réactions qui se passent lorsque les étoiles sont très avancées. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais ça, il a fait ça à la perfection. Et très vite, il a été nommé professeur à l'Université de Montréal. Puis là, je crois qu'il s'embêtait un peu. Et il a été capté par l'Europe, d'abord en Belgique, l'année 64 en Belgique, avec des physiciens nucléaires. Et puis en 65, alors ça a été une autre chance de sa vie, c'est que les physiciens d'Orsay qui l'ont attiré étudiaient les probabilités des réactions dont il va se servir pour bâtir la théorie de l'origine de ces trois éléments. Donc il a eu un heureux concours de circonstances et puis le bonheur. Je crois qu'il aimait l'Europe, honnêtement.
Il aimait l'Europe. On va reparler justement de comment il a travaillé en Europe au CNRS à vos côtés. Mais avant ça, je fais un petit retour en arrière quand même avec vous, David Elbaz. En effet, Hubert Reeves fait pas son doctorat d'astrophysique nucléaire. Déjà, peut-être qu'on peut un peu repréciser qu'est-ce que cette branche.
Oui, parce que en fait, quand on étudie l'univers, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Et on apprend à décoder le langage de l'univers. Et pour ça, les éléments chimiques, c'est un peu comme les mots, le langage de l'univers. Le carbone, l'azote, l'oxygène, le lithium, etc. Tous ces éléments ont une histoire. Et apprendre à décoder ça, c'est un peu comme la pierre de Rosette. Jean Audouze fait partie des pères de cette théorie-là, avec Hubert Reeves, avec d'autres, et dont je me sens un peu le descendant, parce que j'ai aussi appris d'eux. Et tout à l'heure, quand Jean Audouze parlait, Sulpeter, qui était quelque part, j'allais dire, le maître d'Hubert. C'est un peu comme les histoires de maître à disciple, un peu comme les samouraïs. Tout à l'heure, on entendait Hubert qui parlait d'une galaxie avec un objet actif mystérieuse. Sulpeter est un de ceux qui a parlé de l'origine du mystère, qui était des trous noirs. Et en même temps, il s'intéressait aux étoiles. Donc ce langage-là, la nucléosynthèse, la naissance des noyaux d'atomes, c'est en puissance le langage de nos origines. C'est ça qui va devenir le maître mot qu'il va résumer avec cette phrase « Nous sommes des poussières d'étoiles ». C'est ça qu'il entend.
Pauline Zarouk?
Non, exactement. C'est exactement la phrase « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout connu le travail scientifique du Berif. J'ai commencé moi-même ma thèse en 2015, donc beaucoup plus tard. Mais je me souviens très bien dans ses ouvrages de vulgarisation et par la suite... les cours de nucléosynthèse stellaire, où effectivement ça reste une référence et un travail pionnier qu'on enseigne encore aujourd'hui dans nos universités.
Alors, ce travail, en tout cas, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean Audouze, il aboutit donc, c'est déjà son travaux scientifique majeur du Barry, c'est cette thèse qu'il soutient en 1960. Jean Audouze, on peut peut-être revenir un peu en quoi consiste cette thèse.
Alors, la thèse, d'abord. Alors, la thèse, ça consiste à étudier.
Ah, non, pas le.
Vous voulez que je parle de ça ou
de sa thèse, en effet,
de l'origine des éléments légers.
Exactement. Sur les réactions thermonucléaires qui animent les étoiles, c'est ça le travail. Alors,
parce que les réactions qu'il a étudiées dans sa thèse ne sont pas les réactions qui ont été étudiées par la suite pour l'origine des éléments légers. Alors, en deux mots, les réactions de fusion, il a étudié. Le soleil brille parce que il y a la fusion de l'hydrogène en hélium. Et puis, les étoiles plus avancées, eh bien, c'est l'hélium qui va se fusionner pour donner du carbone. Alors lui, il a étudié les stades successifs. C'est-à-dire le carbone se fusionne sur lui-même pour donner du magnésium, du néon, et l'oxygène se fusionne sur lui-même pour donner du silicium et de l'oxygène, et du soufre. Et c'est ça, son travail de thèse. Mais alors, le travail que nous avons fait après, c'est très différent. Parce que alors que là, c'est vraiment, on est à l'intérieur des étoiles, il aimait dire que les étoiles sont nos mères, poussières d'étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles, à trois exceptions près, qui ont été donc le travail que nous avons entrepris entre 60, et donc qui a été lui, l'inspirateur, entre 1965 et 1971. À savoir que ce sont des réactions beaucoup plus énergiques, mais qui se produisent à l'extérieur des étoiles. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. En ce moment, on est tous bombardés par ces particules, mais il y en a énormément, évidemment, en dehors du système solaire. Et quand ces particules viennent frapper les atomes du gaz interstellaire, elles les coupent. Tout à l'heure, on a parlé de fusion. C'est-à-dire, on passe de petits noyaux à des gros noyaux. Là, on parle au contraire de gros noyaux et on les coupe. Et la grande idée de Dubert, alors, je passe évidemment sur la façon dont... c'est un vrai roman, de savoir comment il y est arrivé, parce que c'est d'une habileté phénoménale. Mais il nous a inspirés à regarder justement ces réactions totalement différentes de ce qui se passe dans les étoiles pour expliquer ces trois éléments que les étoiles sont incapables de fusionner. Et c'est ça son... Alors, je dis un mot de la façon dont il a... Et c'était dans un bon sens du terme, ce que j'appelle un opportuniste, c'est-à-dire qu'il saisissait toutes les occasions pour nourrir son inspiration. Et en particulier, il avait un ami qui travaillait à Copenhague, qui lui a fait remarquer que, contrairement dans la matière ordinaire, ces éléments lithium et hélium sont très peu abondants. Il n'y en a pas beaucoup. En revanche, dans le rayonnement galactique, eh bien, il y en a 25%. C'est-à-dire que la proportion, il y en a beaucoup. Et donc, il s'est dit, c'est là que réside l'origine de ces éléments-là. Et c'est... voilà. Et donc,
oui, c'est ça. C'est qu'à l'époque, en effet, entre 75 et 71, donc là, c'est là où vous entrez en scène en 71 sur ces travaux, vous vous intéressez donc à l'origine de ces trois éléments chimiques que sont le lithium, le beryllium et le bore, trois éléments légers. Et c'est ça, à l'époque, qu'on ne comprend pas et que vient éclairer Barry.
Si vous voulez, il y a 92 éléments dans la table périodique. 89 sont expliqués par les anglo-saxons, et 3 résistent, c'est les trois, vous voyez, les 3 canado-français, voilà.
C'est intéressant, donc, parce qu'on sait que l'univers a été un chaudron alchimique au tout début de l'histoire. On s'est demandé d'ailleurs jusqu'où il est allé l'univers, et en fait, il y a des noyaux qui sont interdits, qui sont trop instables, et grâce à ça, grâce à ces noyaux qui sont interdits, l'univers n'a pas construit des noyaux d'atomes de plus en plus lourds. Sinon, il serait allé jusqu'au fer. Et ces noyaux, c'est le 5 et le 8, sont interdits. Si ça n'avait pas été le cas, pour une raison qu'on ne connaît pas très bien, l'univers aurait été un enfer, parce qu'il aurait été enfer. Ce qui est intéressant, c'est que dans les étoiles, effectivement, on ne construit pas le lithium, le béryllium et le bore. Et si vous avez du lithium, parfois on prend du lithium, etc., ça vient du mécanisme qui a décrit Hubert. Et ce que j'ai regardé en venant ici, si ces publications sont toujours d'actualité, eh bien en 2023, il y a un grand nombre d'articles qui citent aujourd'hui ces publications dont on vient de parler comme une référence.
C'est comme ça que vous avez donc complété la grande fresque de la nucléosynthèse stellaire. Mais par la suite, Berry va aussi travailler sur...
Il a continué après.
Sur l'abondance cosmique du deutérium.
Sur le deutérium. Alors là, c'est une autre... Enfin, c'est un peu une histoire semblable, c'est à savoir que le deutérium, lui aussi, le malheureux, il ne peut pas être formé dans les étoiles parce qu'il est tellement instable. En fait, Hubert s'est toujours intéressé aux chétifs, aux malheureux, et pour leur donner le titre de gloire. Alors, pourquoi c'est intéressant? Alors, bon, je passe sur le travail formidable qu'il a fait avec Johannes Geis, qui est un collègue qui travaillait à Berne, qui avait eu l'intelligence de demander aux cosmonautes de mettre des feuilles d'aluminium à la surface de la Lune, qui captait le vent solaire, et donc on pouvait mesurer le rapport hélium-3 sur hélium-4. Et l'hélium-3, on sait qu'une partie de l'hélium-3 vient de la transformation de ce deutérium. Le deutérium, hein, c'est simple. Il y en a un dans cette bouteille, hein, il y en a un sur 30 000, un atome de deutérium, le deutérium étant le frère lourd de l'hydrogène. Hein, l'hydrogène a un proton comme noyau, et le deutérium, il a un proton et un neutron. Alors, le travail formidable d'Hubert, c'était de qualifier l'abondance cosmique du deutérium. Parce que sur Terre, il y a trop de deutérium. Enfin, c'est pas la bonne valeur. La bonne valeur, elle est 30 fois plus faible, de l'ordre de quelques 100 millièmes par rapport à l'hydrogène. Et donc... Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que le deutérium, il ne peut être formé qu'au tout début de l'univers, c'est-à-dire lorsque l'univers a entre 1 et 100 secondes, c'est-à-dire lorsqu'il a une température comprise entre quelques dizaines de millions de degrés à 1 milliard de degrés. Et là, c'est ce qu'on appelle une nucléosynthèse primordiale. Un hydrogène capture un neutron, donne le deutérium. Le deutérium lui-même se fait attaquer sur lui-même et va donner ou hélium-3 ou hélium-4. Et puis, de temps en temps, hélium-3 plus hélium-4 donne un peu de lithium-7. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la valeur de ce deutérium détermine la densité de l'univers de matière visible. C'est-à-dire que supposons que toute la matière de l'univers soit celle qu'on voit, eh bien, il n'y aurait pas de deutérium du tout. Parce que cette densité était plus élevée, eh bien, le deutérium se transformerait en hélium, immanquablement. Donc, voilà, si non seulement il a déterminé l'abondance de deutérium, mais qui est un marqueur cosmologique fondamental.
Oui, ce sont des résultats importants pour tous ceux qui font de la nucléosynthèse primordiale, David Delbaz.
Oui, alors et ce qu'on vient d'apprendre là, c'est aussi le fait que, vous savez, on parle parfois de la matière noire. Alors, pourquoi est-ce qu'on va invoquer, les gens nous demandent souvent, mais pourquoi vous allez invoquer une forme de matière noire? Pourquoi ça ne serait pas une forme de matière faite des mêmes atomes que nous, mais qui ne serait pas exotique? Eh bien, justement, parce que ces travaux sur la nucléosynthèse primordiale, le mot est un peu étonnant, mais enfin un peu compliqué, mais c'est cette idée que s'il y avait plus d'atomes dans l'univers ou moins d'atomes dans l'univers, la proportion de deutérium dans la bouteille d'eau que je tiens serait pas la même. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Pauline Zarouk.
Oui, non, tout à fait. Et c'est vrai que pour cette question de la matière noire, on se base effectivement, c'est avant tout et très essentiel de connaître les mécanismes de formation de la matière ordinaire et s'assurer que effectivement dans ces mécanismes qui ont été explorés, en fin de compte, on ne peut pas rendre compte des observations qui nous mènent à conduire à l'existence de la matière noire en faisant appel uniquement à ces mécanismes de formation de matière ordinaire.
On vient de parler donc de ses travaux, de sa méthode scientifique. Quelle est sa méthode de vulgarisateur et comment est-il devenu ce vulgarisateur célébrissime? On en parle dans quelques instants. I reach for the stars when I reach. For so far above me, you always will be like a clown longs to be a king in a play. I long for the things that are so far. I reach for the stars when I reach for your hand, but stars tumble down from the clouds to the land when you come to my arms. In that moment en direct sur France Culture, Shirley Bassey, Reach for the Stars, car nous rendons hommage à l'As des Astres, pour reprendre le titre de Libération. Un hommage en compagnie de Pauline Zarouk, astrophysicienne au CEA, David Elbaz, astrophysicien lui aussi au CEA, et Jean Audouze, astrophysicien et directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris et du Palais de la Découverte. Nous venons dans un premier temps de parler de l'héritage scientifique de Hubert Reeves, hein, qui est l'auteur d'une bonne centaine d'articles scientifiques, à qui l'on doit notamment d'importants travaux sur l'origine, donc des éléments légers comme l'hélium, le détérium ou le lithium. Mais Hubert Reeves, c'est aussi un vulgarisateur hors norme. David Elbaz, au départ, il raconte dans ses mémoires, hein, Hubert Reeves, hein, ses mémoires qui s'appellent d'ailleurs « Je n'aurai pas le temps » aux éditions du Seuil, « Jamais je n'ai pensé devenir vulgarisateur scientifique ».
Oui, c'est sûr que c'est pas quelque chose, c'est pas un métier. D'ailleurs, même le mot en français n'est pas terrible, un vulgarisateur. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai honte de le dire, mais quand j'ai avoué ma passion pour ce que faisait Hubert, une collègue scientifique m'a dit « Ah non, tu vas pas nous faire un Hubert Reeves ». C'était, à l'époque, c'était parce que c'était se rabaisser, parce que dès qu'on commence à décrire la science accessible à tous, on me l'a dit encore il y a pas longtemps, on me dit « Oui, mais attention, faut quand même pas dire des choses fausses, et quand tu simplifies à outrance, eh bien c'est pas vrai, c'est pas juste ». Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait alors vis-à-vis de tous ces gens? Et donc, il faut quand même avoir une force. Je pense qu'Hubert, pour vulgariser, il a dû quand même frayer un chemin qui n'était pas évident. Maintenant, plus facile, mais à l'époque. Et je voudrais juste donner une petite anecdote, si je peux. Un jour, on était à table, à la cantine du CEA. Et on a parlé des films de Woody Allen. Et Hubert a dit que son film préféré de Woody Allen, c'était Zelig. Et pour moi aussi, c'était Zelig. Et pour moi, c'était très révélateur. Parce que qu'est-ce que c'est que Zelig? Zelig, c'est un personnage qui a une drôle de maladie. Dans le film, ils appellent ça la maladie du caméléon. Ils font même la danse du caméléon. C'est que quand il est avec des gens, eh bien, il prend leur couleur pour pouvoir être en communication la plus parfaite avec eux. Et ça, cette capacité du caméléon, là, je pense que ça Je pense qu'Hubert l'avait, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je pense que il est très important d'être en résonance avec l'autre et d'être capable d'entendre l'autre et de parler à l'autre. C'est le mal du siècle, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, on parle d'astrophysique, on parle de nucléosynthèse, on parle de choses qui semblent concerner l'univers très lointain, mais en fait, aujourd'hui, et spécialement aujourd'hui, on a besoin d'Hubert Reeves avec un S. C'est-à-dire, c'est pour moi la clé pour résoudre les problèmes majeurs auxquels notre civilisation est confrontée. Cette capacité d'entendre l'autre, ce zéliguisme. Et ça, pour moi, au-delà de la science, Hubert Reeves y transmettait ça.
Il y a donc cette communication le plus parfaite, comme vous dites, mais j'ai l'impression aussi qu'une des clés de la vulgarisation, selon Hubert Reeves, c'est aussi l'art du récit.
Oui, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est d'ailleurs même dans Game of Thrones, c'est ce truc, à la fin, l'homme de petite taille dit, il n'y a pas plus puissant qu'un récit. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle les gens adhèrent à des théories complotistes. Parce qu'en fait, c'est une théorie avec un récit. Et tout ce qu'on doit être capable de faire, c'est d'amener un récit. Si on n'est pas capable de décrire les choses dans un récit, alors c'est pas digeste. Bon. Et c'est ça la force, je pense, qu'avait Hubert Reeves, c'est qu'on doit être capable de faire, et on vit tous dans un récit, qui est une forme d'illusion. Et la science est une histoire. Mundus est fabula, c'est la phrase de Descartes qui a été reprise par Georges Lemaître. Le monde, l'univers tout entier est un récit. Il faut accepter cette idée-là. Et ce récit-là, il est fondamental.
Il faut bien se rappeler que, enfin, je le redis, dès 65, il était chercheur avec une cravate et tout, il avait déjà ce don de. En fait, pourquoi on passait des moments merveilleux, c'est parce que et déjà nous étions ses premiers auditeurs ou ses premiers, et il avait un don, et ce don, c'est le même que celui de la recherche, le pragmatisme, l'observation, c'est-à-dire qu'il était sensible aux petites choses, de la modestie aussi. Lorsque vous regardez ses discours, ses conférences, c'est jamais des conférences où le maître qui parle à l'élève. C'est toujours une conversation comme un grand-père parle à ses petits-enfants ou un cousin parle à un autre cousin. Si vous laissez cette façon de mettre... David vient de le dire très bien, c'est que il ne se mettait pas au-dessus de son auditeur ou de son élève, il se mettait à côté. Et ça, je crois que c'était une grande... Alors maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que là aussi, il a eu des faits pour sa carrière vulgarisateur. Il a eu deux faits. La première, c'est que, sa deuxième épouse était une journaliste et il le reconnaît, hein, elle l'a appris à écrire formidablement. Ça, c'est. Et puis le deuxième, c'est un collègue physicien, Jean-Marc Lévy-Leblon, qui lui l'a poussé à écrire Patience dans l'azur. Patience dans l'azur, c'est pas lui qui a... Il a été stimulé par Jean-Marc Lévy-Leblon et il a écrit ce chef-d'œuvre.
C'est un livre très important, un livre scientifique majeur, publié en 1980, qui tisse d'ailleurs des liens entre la science et la poésie. Au départ, ce livre est refusé quand même par une trentaine d'éditeurs. À l'époque, on pense que l'histoire du cosmos et des étoiles n'intéressera pas le grand public. On l'écoute lors de son passage sur le plateau de Bernard Pivot en 1980 pour l'émission Apostrophe.
J'aime beaucoup la dédicace. Ce livre est dédié à tous ceux que le monde émerveille. Je pense que vous êtes toujours, comme le professeur Jacob, toujours émerveillé par le monde.
Ah oui, ça, effectivement, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre. C'est que plus on le regarde, plus on est étonné, émerveillé par tout ce qu'il y a dans cet univers. J'ai voulu un peu faire passer ça, un peu contrairement justement à une certaine tendance réductionniste qui consiste à dire « tout n'est que ». Vous savez, la position réductionniste, vous ramenez tout à quelque chose d'autre. Je ne suis pas contre le réductionnisme. Je pense que c'est une phase importante. On ne peut pas faire de science si on ne réduit pas à un certain moment donné. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas s'en tenir là. C'est après de prendre du recul et de revoir à distance les grands traits. Je voyais aujourd'hui l'exposition de Turner, le peintre anglais. Et précisément, c'est ce qu'il fait. Les paysages sont là, mais en les mettant dans la brume, dans les couleurs, dans les nuages, on voit sortir des traits qu'on ne verrait pas si on regardait directement, si on visait.
Voilà, Hubert Reeves à Apostrophe, hein, pour ce livre, d'ailleurs au titre inspiré du poème éponyme de Paul Valéry, hein, Pauline Zarouk.
Oui, non, tout à fait, c'est le deuxième livre que j'ai lu ensuite d'Hubert Reeves, énormément poétique, vous l'avez dit, Et effectivement, cette capacité et cette volonté de raconter une histoire, et notre histoire en fait, toujours avec beaucoup d'humilité et d'accessibilité, c'est-à-dire que c'est la propriété de tout le monde, et chaque terrien devrait connaître son histoire cosmique, pas uniquement les personnes qui font avancer cette histoire, à savoir les scientifiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on peut attribuer à Hubert.
Mais lorsque Bernard Pivot a dit « c'est un livre que tout le monde doit lire », c'était vraiment... Mais ça a été le déclencheur, parce qu'il l'a pas dit souvent, Bernard Pivot, à propos des auteurs qu'il a reçus à Apostrophe. Mais là, il était vraiment, comme nous le sommes, nous continuons à l'être, subjugué par ce récit qui était formidable, et ça a été évidemment le début d'un immense succès planétaire de ce bouquin.
Un autre terme aussi qui est utilisé, que j'aime beaucoup associer à Hubert Reeves, et je pense qu'on essaye aussi tous de faire dans nos actions de diffusion scientifique, c'est l'émerveillement. L'émerveillement, c'est vraiment le point de départ, il est commun à tout le monde. Tout le monde s'émerveille de regarder le ciel. Alors c'est pour ça que moi, c'est pareil, je comprends pas le discours qui dit « mais ça va intéresser personne de parler de l'univers ou de parler des étoiles ». Donc voilà, l'idée est de partir de ce sentiment partagé d'émerveillement, de contemplation, pour ensuite associer à un désir de comprendre et un respect, et en fin de compte un devoir de protéger aussi par la suite.
Bah, ce livre, en tout cas, ça va être un énorme succès, David Elbaz. Hein. C'est sur des sujets en plus qui sont très peu enseignés à l'époque, et Hubert Reeves montre qu'on peut vendre des livres en France sur ces sujets-là, justement.
Oui, ça c'est très très fort, parce que à l'époque, moi quand je l'ai lu, effectivement, j'ai tout découvert, je connaissais rien de tout ça, et ça a ouvert une passion. Je me rappelle encore d'ailleurs, inspiré par ça, un jour on devait faire un exposé dans mon école d'ingénieur, et avec un ami, donc on a fait un exposé autour de l'astrophysique, et il nous arrivait un truc assez bizarre, c'est que le professeur est venu nous voir après, il nous a dit « j'ai pleuré quand je vous ai écouté ». Or, on était dans une école d'ingénieur en train de parler de science. Je pense qu'on était porté par ça. C'est un virus. On peut attraper le Covid, on peut attraper l'Hubert Reeves. Et on avait attrapé l'Hubert Reeves. Et le prof m'a dit, j'ai pleuré. Et c'était extraordinaire. Parce que, en fait, et c'est ça, Patience dans l'Azur, c'est cette idée, d'abord, c'est de la poésie, et c'est nos origines. Et puis, très subtilement, il va nous amener, parce que quelque part, je ne sais pas s'il l'avait calculé, mais quand même, il est en train de nous dire, voyez-vous, ce truc qui est loin là-bas, c'est pas si loin, c'est nous. C'est nous quand on a été bébé. C'est un livre d'histoire, c'est notre enfance, c'est notre récit. Et puis, il nous amène de plus en plus à... nous sommes les enfants de ça. Et quand vous êtes les enfants d'un cosmos, ben, vous avez des responsabilités.
Exactement.
Oui, mais d'ailleurs, ça... Après, il va devenir... Enfin, il va se lancer beaucoup dans l'écologie, mais même une grande partie de ses ouvrages. Moi, j'ai le souvenir... Il avait une très belle propriété à Malicorne. Et alors, il avait... Il avait un coin où il plantait des arbres avec l'idée que ces arbres dureraient 1000 ans, ou 2000 ans, ou 3000 ans. Il avait ce respect de la nature. Enfin, vous connaissez sa bibliographie. Un respect de la nature absolument extraordinaire. Et ça, c'est pour moi... Enfin, après avoir été baigné par la science, son regard sur la nature était absolument unique.
Il y a sa bibliographie, puis d'ailleurs on vous a aussi préparé un extrait de Malicorne, mais avant ça, comme vous dites, il y a sa bibliographie, hein, une trentaine d'ouvrages de vulgarisation scientifique, mais aussi des films scientifiques, des conférences, et puis aussi Pauline Zarrou, qu'on peut parler du Festival d'Astronomie de Florence, dont il était l'un des piliers.
Tout à fait, il était le parrain de la première édition du Festival d'Astronomie de Florence, qui a commencé en 1991, et il a été fidèle à tous les rendez-vous, donc c'est un rendez-vous annuel, et il a porté ce festival avec d'autres scientifiques, d'autres astrophysiciens, exactement, avec Michel Cassé, et c'est vrai que quand on voit l'héritage qu'il laisse de ce point de vue-là, je suis honorée d'avoir rejoint moi-même le comité scientifique de ce festival pour en hommage aussi à Hubert Reeves, et comme une passation des responsabilités et des engagements.
David Elbaz, on peut dire, Hubert Reeves a utilisé tous les supports pour transmettre son savoir, et On se disait avec les camarades de l'équipe hein, que si Hubert Reeves avait 25 ans aujourd'hui, il animerait peut-être une chaîne sur Twitch, YouTube ou TikTok.
Ah oui, oui, je pense, oui. Il aurait certainement tout ça.
Ça a du rap. C'est...
Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, on est des compteurs d'étoiles. Alors, vous pouvez l'écrire C-O-M-P-T-E ou C-O-N-T-E. Et c'est exactement ça. On compte les étoiles, mais finalement, ce qu'on veut, c'est compter les étoiles. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Au final, et c'est ça qui est même très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on parle de l'intelligence artificielle, on se demande qu'est-ce qui va rester de nous. Est-ce que les animateurs radio vont rester ou est-ce qu'on peut avoir une intelligence artificielle qui le fait? Et puis l'invité, finalement, il suffit de lire un peu tout ce qui a été publié, on va faire un faux invité, etc. Qu'est-ce qui reste une fois qu'on a enlevé la part d'intelligence artificielle de nous? C'est le récit. Je lisais le bouquin d'un type qui s'appelle Harari, qui est connu, qui s'appelle Sapiens, et il raconte qu'il y avait 5 espèces d'humains sur Terre. Et puis, il y en a un qui a survécu, c'est Sapiens, c'est l'Homo sapiens. Mais il n'était pas plus fort. Néandertal était plus fort que lui. Alors, dans le livre, il dit, c'est parce qu'il était capable de faire des récits. C'est ça qui a fait qu'il a survécu, ouais. Parce que ça faisait une unité, etc. Voilà, alors je pense que là, voilà.
À quel point notre capacité de récit est clé. En tout cas, comment Hubert Reeves a ensuite su relier l'univers à la démarche écologique, restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Actuellement, l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. Ce sont les mots d'Hubert Reeves dont nous rendons hommage avec nos invités Jean Oudouze, Pauline Zarouk et David Elbaz. Pauline Zarouk, à l'aube des années 2000, Hubert Reeves s'engage pour la défense de l'environnement et en particulier de la biodiversité. Vous savez ce qui a été le déclic ?
Le déclic de son engagement ? Oui. Non, je ne sais pas s'il y a eu un événement en particulier. Je pense que c'est un enchaînement de plusieurs... d'un concours de circonstances et une évidence aussi que lorsque voilà on est amené à travailler dans ces thématiques et avoir ce rapport à l'univers avec cette humilité vient naturellement le besoin et l'envie de protéger notre univers.
Mais si vous voulez, si je peux me permettre Hubert Reeves, moi j'ai eu la chance de travailler avec deux conteurs, Hubert Reeves dont on parle aujourd'hui et Jean-Claude Carrière, qui a disparu il y a 2-3 ans. Et tous les deux, ce qui est assez surprenant, bon, je passe sur leur mérite réciproque, ils sont fabuleux l'un et l'autre. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'un et l'autre, très tôt, ont écrit un livre sur la protection de l'environnement. C'était le pari de Jean-Claude Carrière dans les années 70, et c'est la série de livres que Malicorne et les autres que Hubert a écrit ensuite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'univers, où on essaie de le décrire, où on essaie de raconter des histoires, nécessairement, on se dit la nature, elle est tellement fragile. Vraiment, j'aime beaucoup montrer une photo de Saturne et puis on voit un point minuscule. C'est la Terre. Hein. On est sur un tout petit caillou de rien du tout. Et je crois que notre devoir, c'est vraiment de le protéger.
Voilà comment on passe de la recherche fondamentale à la défense de la cause environnementale. Voilà un élément de réponse dans son texte, Malicorne, un essai promenade publié en 93 aux éditions Point Science. Je vous en propose un extrait. Le problème de l'origine de la vie est un autre domaine où les connaissances scientifiques peuvent influencer les choix moraux. Nous sommes les enfants de l'univers, les fils et les filles des étoiles qui ont engendré les atomes de notre corps. Notre présence nous relie aux phénomènes les plus violents du cosmos. Effondrement de la matière galactique, explosion d'étoiles géantes, dispersion de leurs cendres en torrents tumultueux de nébuleuses interstellaires, collision d'astéroïdes menant à la formation de la Terre au premier temps du système solaire. La prise de conscience de la position de l'être humain dans ce vaste mouvement de structuration de la matière nous permet de retrouver nos racines profondes dans l'évolution du cosmos. Cette vision du monde, qui montre l'insertion de l'homme dans le vaste mouvement d'organisation universelle, peut éclairer de façon spécifique les choix moraux des gens et des sociétés. Des étrangers à l'univers auraient été en droit de refuser toute responsabilité sur le devenir de la biosphère. À l'inverse, les enfants du cosmos sont directement impliqués dans son avenir. Il leur revient de prendre en charge l'aménagement de notre planète. Il leur incombe de veiller au plein épanouissement de la complexité cosmique. Ce texte de Hubert Reeves, David Elbaz, ça dit que d'enfant de poussière d'étoiles, on est devenu responsable de notre planète.
Oui, c'est ça la subtilité. En fait, il nous dit, voilà, avant on était des étrangers à l'univers, et si, enfin, tant qu'on ne sait pas, on est un peu comme des étrangers à l'univers, mais une fois qu'on sait, alors on ne peut pas échapper à la responsabilité. Alors vous vous laissez prendre par le récit qui vous emmène, et puis progressivement vous découvrez que ce n'est pas le récit d'un autre. Vous savez, c'est un peu comme c'est l'histoire sans fin de ce jeune garçon qui lit un livre, et puis dedans, on parle de quelqu'un, et il dit, c'est marrant, il a le même prénom que moi. Et puis le livre dit, oui, mais enfin, s'il ne croit pas en nous, ça va pas marcher, c'est la fin du monde. C'est exactement ça. En fait, vous lisez Hubert Reeves, puis en fait, vous dites, mais attendez, il m'y parle de moi, là. Mais donc, j'ai trop tard. Vous êtes fait avoir, vous avez lu le truc, vous avez écouté. Et maintenant, vous êtes responsable. Et alors voilà. Et ça, c'était en 90, je crois, c'est il y a 30 ans. Et c'est plus vrai que jamais. Et donc, effectivement, il dit, voilà. Et c'est intéressant parce que on dit que le premier roman écologique, c'était Les Racines du Ciel de Romain Gary. Les Racines du Ciel, rien que le titre déjà. Et on voit qu'effectivement, les récits de la nature, ça se dit en grec physis, la physique c'est la nature, ça nous amène vers notre responsabilité face à la nature.
Mais Pauline Zarou, voilà, il fait cette trajectoire de passer du ciel à la terre.
Oui, tout à fait, et c'est vrai que c'est manifeste chez Hubert et tout à fait naturel en fait. C'est la continuité de son enseignement humaniste en fait, j'ai envie de dire, parce que il a suscité l'émerveillement pour notre univers, pour notre écosystème dans son ensemble. Vient avec cet émerveillement une adaptation de son comportement forcément, puisqu'on veut respecter, on veut protéger, entretenir ces relations, et ça passe par entretenir la relation avec le vivant, le non-vivant, mais sans jamais avoir un discours moralisateur ou sans jamais chercher à faire culpabiliser les gens non plus. Et je pense que ça, c'était aussi très important d'avoir un discours optimiste sur la cause écologique et ce besoin de générer de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires pour avoir envie d'agir.
En fait, si pour le résumer d'un mot, c'était un transmetteur. Mais vous regardez d'ailleurs certains titres de ses livres, c'est « Il raconte à ses petits-enfants » ou c'est « Les chroniques du ciel ». C'est-à-dire qu'il était investi, je pense, bon, il a fait des découvertes, mais à partir de ça, en nous racontant l'univers, eh bien, il essaye de nous transmettre une philosophie, un mode de vie. Et je crois que c'est, si on devait le résumer, on ne peut pas résumer Hubert en un mot, ce serait trop réducteur. Mais moi, je suis frappé. Bon, il m'a transmis à moi, à David, il nous a directement, vous un peu indirectement, en raison de, parce que vous êtes très jeune, voilà. Et donc, il nous a transmis la recherche, et puis, pour le grand public, il transmet le message important. Nous faisons partie de l'univers, nous sommes sur un petit caillou, et il est absolument, on a la responsabilité de le maintenir.
David Elbaz, vous parliez de l'importance en effet du récit chez Hubert Reeves, et en effet dans son combat pour la planète, comme vous le disiez, c'est cette attention aussi à ne pas voir que les récits catastrophiques de fin du monde.
Oui, c'est ça aussi, Reeves. C'est ça qui est très fort, c'est qu'il fallait voir la lumière, voir, être capable de se projeter dans le futur. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, parce que si on fait juste le diagnostic de la crise climatique, etc., bien entendu, c'est déprimant. Je lisais ce matin dans le journal quelqu'un qui a perdu son poste, je crois que c'était au CNRS, parce qu'il avait une telle angoisse de reprendre l'avion pour revenir dans l'endroit où il était, alors qu'il étudiait l'écologie. Et il faut arriver à se projeter dans un avenir qui sera meilleur. Et Hubert Reeves avait ça. Donc c'est ça notre rôle maintenant, si on veut reprendre le flambeau, il faut qu'on soit capable de donner aux nouvelles générations un scénario optimiste.
Bien, merci à vous trois d'avoir été présents avec nous pour cet hommage. Je rappelle que France Culture rend aussi hommage à Hubert Reeves toute la semaine en diffusant la série d'entretiens à voix nue. C'est à 20h et les obsèques nationales ont lieu mercredi, nationales publiques pardon, obsèques publiques auront lieu donc ce mercredi à 13h30 au Père Lachaise.
Mercredi 25.
Et là il est l'heure de retrouver la chronique d'Alexandra Delbeau, c'est la chronique Avec Science. «
Des empreintes fossilisées racontent une nouvelle histoire de l'arrivée des humains sur le continent américain. Parce que son peuplement pose question depuis longtemps, on trouve des preuves d'occupation humaine en Amérique du Sud et du Nord, avec des outils ou des traces de foyers. Il n'y avait pas d'embarcation à l'époque, bien sûr. Les premiers Homo sapiens, seule espèce à avoir fait ce voyage, seraient passés par la Sibérie et le détroit de Bering à pied. Un passage de 1500 km de large, permis par la dernière glaciation qui connut notre planète. Le consensus scientifique qui admettait alors que les premiers humains étaient arrivés au moins aux alentours d'il y a 13 000 ans. Mais comme toujours, leur arrivée pourrait être plus ancienne que cela. Quelques publications font état d'une possible occupation humaine antérieure, mais elles sont sujettes à controverse. Soit parce que ce sont des outils qui ont été trouvés, dont on ne peut pas vraiment dire s'ils ont été façonnés par l'humain ou simplement par la nature, soit à cause des datations. C'est le cas d'une étude parue il y a 2 ans dans le site de White Sands, dans l'État américain du Nouveau-Mexique, un lac devenu un immense désert jonché de milliers de traces de pas, dont certaines semblaient plus anciennes que 13 000 ans. Jérémy Duvaux est paléo-anthropologue à l'université de Tübingen en Allemagne.
Les empreintes de pieds sont remarquables pour 2 raisons. D'une part, parce qu'elles sont très bien conservées. En réalité, quand on regarde les empreintes qu'ils ont découvertes, on pourrait penser qu'elles ont été faites il y a quelques secondes. Elles ont un niveau de détail anatomique très remarquable. Et la seconde raison pour laquelle elles sont très intéressantes, c'est évidemment leur datation. Entre 21 et 23 000 ans. Mais effectivement, la datation avait été questionnée par la méthode, du point de vue uniquement méthodologique. C'est-à-dire que dans l'étude parue en 2021, les auteurs de l'étude se reposaient sur une datation au carbone 14 de graines de plantes aquatiques. Et l'une des questions que se posaient les personnes qui remettaient en cause cette étude, c'est est-ce qu'il y avait un effet réservoir à partir de graines aquatiques. Un effet réservoir, c'est simple, c'est que les graines aquatiques, par exemple, peuvent capturer du carbone de fonds océaniques et ce carbone va venir biaiser les estimations d'âge. Donc, il se pouvait, à partir de ces datations-là, que les datations surestimaient l'âge réel des empreintes.
La possible captation du CO2 brouille les datations au carbone 14. Le problème supplémentaire avec les empreintes, c'est que l'élément principal pour qu'ils nous renseignent, eh bien, c'est la datation. Alors qu'un outil en pierre, par exemple, peut être comparé à d'autres, la manière de façonner ces artefacts nous permet de les attribuer à une espèce ou à une autre, et donc à une période donnée. Mais à moins d'analyses morphométriques très précises, ce n'est généralement pas le cas des empreintes de pied. Alors, cette même équipe vient de publier une toute nouvelle étude où il multiplie les méthodes de datation.
L'étude est très complète et je pense que c'est très révélateur de ce qu'il faut faire quand certaines études sont contestées. Au lieu de rester focalisé sur leur toute première datation, ils vont utiliser une diversité de datations, différentes méthodes, toujours une datation au carbone 14, mais au lieu de dater des graines océaniques, ils vont dater des pollens de plantes terrestres et donc vont obtenir des dates totalement similaire à ce qu'ils avaient obtenu sur des graines aquatiques. Ils ont également utilisé une datation par luminescence qu'on appelle la datation OSL, qui va permettre donc de dater la dernière fois que des grains minéraux ont été exposés au soleil. Et une nouvelle fois, par cette méthode qui est indépendante des autres, ils vont obtenir les bonnes dates, c'est-à-dire entre 21 et 23 000 ans.
Les faisceaux de preuves sont à présent solides. Les humains étaient bien présents sur le continent américain à cette période. Mais par où sont-ils venus? Si l'hypothèse la plus consensuelle est qu'ils aient bien emprunté le détroit de Bering, mais après ça, par où sont-ils passés? Par la côte ou par les terres? Pour le savoir, il faudrait découvrir de nouveaux sites archéologiques ou bien creuser plus profondément les anciens et réévaluer leur datation.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à toutes et tous d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Mariam Ibrahim, Noémie Eliazor, Garance Prima Agnolo, Alexandre Morales. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Vous pouvez nous podcaster à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et nous suivre sur Twitter @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.